Volontiers. Merci.
Nous accueillons ce soir Michel Stavron qui travaille à l'Institut Saint-Serge, l'Institut théologique orthodoxe, et qui va donc nous parler de la prière orientale dans la tradition des églises orthodoxes.
Bonsoir à tous. Je suis heureux d'être parmi vous. C'est la première fois que je rencontre, je dirais, une communauté de jeunes universitaires catholiques. J'ai l'occasion de dialoguer avec des collègues catholiques à l'Institut catholique, puisqu'il y a à l'Institut catholique un Institut supérieur d'études écuméniques qui est vraiment une spécificité extraordinaire dans le monde. Il n'y en a pas beaucoup. Et cet institut a pour, partenaire fondateur un trépied, le Theologicum, c'est-à-dire l'Institut catholique de Paris du point de vue théologique. C'est quoi ce petit bruit là? Ça va faire ça sans... D'accord.
C'est le fauteuil d'agréable.
D'accord, dans le fauteuil. Et donc l'Institut catholique, le Theologicum, d'autre part l'Institut protestant de théologique de Paris, et d'autre part l'Institut Saint-Serge. Ces trois instituts ont fondé en 1967 l'Institut supérieur d'études écuméniques. Et donc, nous nous rencontrons, nous faisons des cours à trois voies, nous avons des étudiants des trois traditions et c'est extraordinaire. Par contre, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer donc des étudiants catholiques depuis mon école. Alors, mon école, c'était une école d'ingénieurs à l'école centrale de Lyon, où il y avait une communauté chrétienne et où on faisait des échanges sur notamment les pères de l'Église. Et on a eu de bons contacts, mais c'est déjà de l'histoire ancienne, puisque je suis maintenant un vieillard. Et donc, le vieillard va vous parler de la prière dans la tradition orthodoxe. Alors, on pourrait parler très longuement de ce thème, donc pour que je sois bien cadré, que je ne m'égare pas, j'ai écrit un texte que je vais lire, mais j'espère pas de manière trop pénible pour vous. Et ensuite, donc, nous pourrons avoir un échange et où vous poserez toutes les questions, où vous ferez toutes les remarques que vous souhaitez. Donc je dirais déjà, pour introduire la question, si vous voulez, de la prière. Vous ne m'avez pas précisé exactement ce que vous attendiez sur la prière, mais je suppose que c'est d'abord la prière personnelle, parce qu'en général c'est ça qui intéresse les personnes. La prière personnelle en perspective orthodoxe, je dirais que c'est l'effort qui est réalisé avec la grâce de Dieu, parce que sans la grâce de Dieu, il est difficile d'entrer dans la prière. Donc un effort pour devenir plus consciemment chrétien, pour se rapprocher de Dieu, et pour participer consciemment à la sainteté de l'Église. Et là, je veux souligner le fait que l'Église est ressentie avant tout dans l'Église orthodoxe, qui est donc l'Église fondée en Orient à la Pentecôte, et qui n'a pas commencé en 1054 ou en 1204. Ce n'est pas une Église contre. Ce n'est pas une transformation de quelque chose, je dirais c'est le poumon oriental, pour parler comme Jean-Paul II, de l'Église, et qui s'est trouvé donc, au fil des siècles en désunion partielle avec l'Église d'Occident, avec le poumon occidental. Donc cette Église orientale, d'abord ce qu'il faut en dire en deux mots, c'est qu'elle est diverse. Elle est dans la diversité, là où l'Église d'Occident est davantage, si on songe à l'Église catholique, davantage, je dirais, centralisé. Et donc, quand on parle de diversité, on parle forcément d'une diversité de traditions et donc d'une diversité de spiritualité. Et donc, il va falloir faire une synthèse et simplifier les choses. Donc, toujours est-il qu'en Orient, l'Église est ressentie avant tout comme le mystère du ressuscité, comme le lieu d'une Pentecôte perpétuée, comme déjà, je dirais, l'antichambre du royaume trinitaire. L'Église est considérée comme le corps sacramentel du Christ, d'abord et avant tout, avant d'être une institution, ça c'est très important. Et ça c'est une chose fondamentale, parce que, quels que soient les péchés historiques des chrétiens, la sainteté de l'Église, elle est donnée comme un roc inébranlable, parce que fondamentalement elle ne vient pas des hommes, elle vient du Christ et de l'Esprit-Saint. Comme disait un grand mystique byzantin du XIVe siècle, Saint Nicolas Cabasilas, si l'on regarde l'Église avec les yeux de la foi, on ne verra rien d'autre que le corps du Christ ressuscité. La prière, c'est donc cet effort pour prendre personnellement conscience de la vie divine qui nous est communiquée par les grands sacrements de l'initiation chrétienne, par les grands mystères, comme dit l'Orient chrétien. Le baptême, qui est toujours accompagné dans l'Orient chrétien de la chrismation, ces deux sacrements n'en faisant qu'un, et puis par l'Eucharistie, qui est le mystère des mystères, dont on a pu dire justement qu'elle n'est pas un sacrement dans l'Église, mais le sacrement de l'Église, celui qui la constitue. L'Église est fondamentalement la communauté eucharistique. Et ça, je crois que ça a été bien retrouvé, aussi bien par l'Église orthodoxe à la fin du 19e, début 20e, et aussi par la nouvelle théologie catholique. Il y a, je crois, un consensus. La gloire de Dieu, la vie de Dieu, est conférée aux chrétiens par ces grands mystères, dès lors qu'ils s'y sont préparés consciemment. Bien entendu, il n'y a pas quelque chose de magique et d'automatique. Donc, parler de la prière en perspective orthodoxe demande de souligner quelques présupposés théologiques. Rappeler ne fût-ce que le fait qu'une prière chrétienne présuppose l'ancrage dans l'Église. Mais quand je dis l'Église, je reviens au mot étymologique. L'Ecclésia, c'est l'Assemblée. On fait partie d'une communauté, la communauté ecclésiale. Et cela présuppose aussi l'ancrage dans la vie sacramentelle. Donc, le plan de mon exposé sera en trois parties. D'abord, quelques présupposés théologiques. Ensuite, la prière liturgique, fondement de la prière personnelle. Et enfin, le modèle de la prière monastique. Donc, premier point, présupposé théologique de la prière chrétienne, le programme, en quelque sorte. L'Orient chrétien considère l'incarnation du Fils de Dieu comme l'axe central et le but principal de la création de l'univers et de l'homme. Autrement dit, l'incarnation visait non pas simplement la réparation d'une faute originelle, mais surtout le grand mystère des épousailles entre Dieu et sa création. Nous le lisons chez de très nombreux pères qui sont redécouverts aujourd'hui aussi bien par l'Église romaine que par nos frères protestants. Un père comme par exemple Maxime le Confesseur y insiste particulièrement. C'est la divino-humanité, la communion entre la divinité et l'humanité en Christ qui est offerte au genre humain, et qui signifie une véritable glorification de l'être humain sauvé du péché et de la corruption. L'histoire de l'économie divine ne relève plus du passé, de la déchéance originelle de l'ancien Adam, mais elle s'accomplit à travers la révélation glorieuse du Christ. Parce que le Christ, c'est le nouvel Adam, c'est-à-dire, comme dit saint Paul, celui qui recrée de l'intérieur complètement notre humanité, et qui annonce en même temps l'arrivée du royaume de Dieu. Le Seigneur incarné est l'alpha et l'oméga de l'univers, celui qui est, qui était et qui vient, comme dit l'Apocalypse de Jean. Dès lors, le but de la vie humaine, pour l'orthodoxie, n'est pas d'accéder d'abord à une connaissance supérieure, ni même de réaliser le bien ici-bas, mais d'abord, de faire dans le Saint-Esprit l'apprentissage de l'amour de Dieu, du mystère du Dieu trinitaire, et d'accéder par grâce à ce partage de la vie éternelle, du ressuscité. Le livre de la Genèse nous révèle que l'être humain a été créé à l'image de Dieu pour lui ressembler. La création de tout être humain à l'image du Dieu trinitaire, c'est un don définitif et ineffaçable pour les pères. Toutefois, la ressemblance à Dieu doit être acquise progressivement. Elle doit être acquise par l'être humain, inscrite et accomplie peu à peu en lui par la grâce de l'Esprit-Saint, avec le concours actif du baptisé. Et cela dans une collaboration faite de grâce et d'ascèse. Une collaboration en grec « synergie ». C'est un terme utilisé par les pères de l'Église qui est extrêmement important et qui dit que, bien sûr, l'initiative vient de Dieu, mais il y a quand même un tout petit effort à fournir de la part de l'homme pour que ce don de Dieu puisse lui profiter et le faire avancer. En acquérant la grâce de l'Esprit-Saint, la personne humaine laisse pénétrer peu à peu et transformer sa nature créée. Et ainsi débute, dès ici-bas, le processus dit de déification ou plus simplement sanctification, dont témoignent les saints et qui sera révélé en plénitude dans le siècle à venir. Cette sanctification, elle s'appuie sur le partage de la vie sacramentelle de l'Église et sur une prière personnelle régulière. Les pères d'Orient sont très optimistes quant aux effets de la prière dans l'Esprit-Saint. Peu à peu, à partir de son cœur embrasé, l'homme peut être métamorphosé dans son âme, mais aussi dans son corps, par la grâce de Dieu, qui est appelée très souvent dans la tradition orientale l'énergie ou les énergies divines. Cette corporalité transfigurée nous a été révélée dans la transfiguration du Christ lui-même au mont Tabor. Je cite Matthieu 17,2 « Il fut transfiguré devant eux et sa face resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Le Christ donc est apparu tout entier transfiguré aux apôtres, son corps devenant comme un vêtement lumineux de la divinité. Autrement dit, son humanité était transfigurée. Grâce au travail théologique d'un grand saint qui était en même temps ermite et théologien au XIVe siècle, Grégoire Palamas, les conciles byzantins ont précisé la distinction dogmatique entre l'essence inaccessible de Dieu, du Dieu qui nous transcende totalement, transcende sa création, et son énergie communicable et sanctifiante, cette gloire ou grâce de Dieu qui enveloppait les prophètes et qui enveloppe les saints. Tous les baptisés sont appelés à cette sainteté, à une véritable christification, une assimilation progressive de l'homme au Christ transfiguré. C'est le processus de sanctification de l'être humain, et celui-ci concerne l'âme et le corps. Comme l'écrit saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens, « Le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps ». Ce corps humain est appelé à devenir le temple du Saint-Esprit, comme il dit aussi dans la même épître. L'histoire de la spiritualité chrétienne en Orient et en Occident nous livre d'innombrables exemples de transfiguration, incluant la dimension corporelle. Celle de Saint Séraphin de Sarov, au XIXe siècle, est l'une des plus impressionnantes. Mais déjà au Ve siècle, l'évêque Diadoque de Photicée, Photicée est une petite ville en Épire, dans le nord de la Grèce, notait déjà, je cite, « Celui qui aime Dieu par la sensation du cœur, celui-là a été connu de lui. Dans la mesure, en effet, où l'on reçoit au secret de l'âme l'amour de Dieu, on devient l'ami de Dieu. C'est pourquoi un tel homme vit dans une ardente passion pour l'illumination de la connaissance, jusqu'à ce qu'il sente par la sensation même de ses os, O-S. Rendez-vous compte de cette formule extrêmement forte. La sensation du cœur peut s'accompagner aussi d'une sensation des os. C'est-à-dire que le corps même du chrétien se trouve transformé. Le plus grand mystique de l'histoire de l'Église byzantine, qui a vécu au XIe siècle, saint Siméon, le nouveau théologien, a décrit sa propre expérience de cette illumination intérieure. L'homme, dit-il, est enflammé par l'esprit et devient tout feu en son âme. Il communique aussi à son corps son propre éclat, à la manière du feu matériel qui communique au fer sa propre nature. Alors la nature humaine, purifiée peu à peu des passions mères, de l'orgueil et de l'avidité, retrouve la beauté de sa forme première. Dans la lumière de l'Esprit Saint, ce n'est plus le corps qui contient l'âme, mais c'est l'âme qui contient le corps, devenant ainsi un esprit porteur de chair. Saint Nicolas Cabasilas résume la doctrine au centre de la tradition orthodoxe lorsqu'il écrit que de toutes les choses visibles, seule la nature humaine peut être vraiment un temple et un autel. Donc le vrai temple, ce n'est pas le temple de pierre, c'est le temple du cœur humain. Et il note encore, « Lorsque l'homme lavé de toute souillure et blanchi plus que neige se concentre, se recueille et descend en lui-même, Dieu habite parfaitement en son âme et son cœur est édifié comme un autel. » Fin de citation. Voilà donc les présupposés théologiques de la prière pour l'Orient chrétien. Il s'agit, dans et par la prière, d'avancer peu à peu vers une communion avec Dieu toujours plus grande. Passons maintenant à la deuxième partie, la prière liturgique, fondement de la prière personnelle. Pour l'Église orthodoxe, la liturgie et le culte en général, je dirais, représentent l'essentiel de la vie chrétienne. La doctrine et l'éthique découlent en fait de la prière ecclésiale, parce que l'hymnographie, d'abord il y a les actes liturgiques bien sûr, et sacramentels, mais l'hymnographie également est très riche au plan dogmatique et éthique. L'orthodoxie considère l'homme avant tout comme un être liturgique, qui devient réellement lui-même, qui s'accomplit lorsqu'il glorifie Dieu et entre en communion avec lui. Les orthodoxes ont mis toute leur expérience religieuse dans la liturgie qui exprime leur foi. C'est elle qui a inspiré leur plus grand poème, « Le meilleur de leurs arts ». C'est elle aussi qui les a protégés au fil des siècles, notamment pendant les 4 siècles de domination ottomane dans l'Empire ottoman de la chute de Byzance en 1453 et jusqu'aux premières rébellions et ensuite libération donc des territoires européens de l'Empire ottoman au XIXe siècle. C'est la liturgie qui a préservé la foi, je dirais, l'identité chrétienne de nombreux peuples donc, du sud-est de l'Europe. La liturgie n'est jamais devenue l'affaire des clercs. Elle est toujours demeurée le bien commun du peuple chrétien. Le fidèle orthodoxe, par une familiarité acquise dans sa petite enfance, se sent chez lui à l'Église. Il connaît par cœur les textes de la divine liturgie, c'est-à-dire de la messe orientale, qui est, disons, les 3/4 du temps, la liturgie de Saint Jean Chrysostome, sachant qu'il existe également 3 autres liturgies, celle de Saint Basile, celle des dons présanctifiés pendant la période de carême et juste au début de la semaine sainte, et enfin la liturgie de Saint Jacques 2 fois par an. Et donc, il se déplace avec facilité dans l'Église. Il y a un style, si vous voulez, liturgique. Si vous n'êtes pas allé dans une église orthodoxe, n'hésitez pas, parce qu'il y en a un certain nombre quand même à Paris, pour voir les particularités. Ce n'est pas exactement la même chose que dans une église luthérienne, ce n'est pas la même chose que dans une église catholique. Chaque tradition a ses spécificités. Et donc, l'orthodoxe en général est beaucoup plus brouillon, je dirais, dans sa manière de se comporter dans l'Église. Il est beaucoup plus libre. Il peut arriver avec une demi-heure de retard, bon, sachant que ce n'est pas la catastrophe, étant donné que...
Les catholiques le font aussi,
ça. C'est vrai que bon, ça existe partout, même les luthériens. Bon, évidemment, mais je dirais que c'est plus courant de voir arriver des gens très en retard, bon, sachant que la liturgie dure en général assez longtemps, 1h30. Il peut même se contenter, à l'inverse, d'entrer simplement, on voit ça souvent, et ça scandalise personne, entrer, allumer des cierges devant les icônes de ses saints préférés, faire une petite prière, un petit signe de croix qui ressemble à un coup de guitare sur la poitrine, et puis s'en aller. C'est une manière minimaliste, mais tout à fait sincère, de prier et de vivre sa foi en Église, quand on estime qu'on n'a pas le temps de venir à tout l'office. La base des offices orthodoxes est sensiblement la même que chez les catholiques. D'abord, la divine liturgie, qui est l'équivalent de la messe romaine, et puis l'office divin, dont les deux services principaux sont matine et vêpre, avec les heures canoniques. L'office de minuit, prime, tierce, sexte, nonne, complie. Et puis enfin, les offices à la demande, tels que baptême, mariage, profession monastique, consécration des églises, funérailles et petits offices de bénédiction. Donc, je dirais que c'est tout à fait équivalent à ce que l'on trouve dans la tradition latine. Dans les églises orthodoxes, la liturgie est célébrée surtout le dimanche et les jours de grandes fêtes. En général, on n'a pas systématiquement tous les jours la liturgie, sauf bien sûr dans les monastères, c'est un cas particulier. Dans l'église orthodoxe d'aujourd'hui, comme dans l'église primitive, tous les offices sont chantés ou psalmodiés, même s'il n'y a pas d'assemblée des fidèles ou de chœur, auquel cas ce sera un lecteur qui donnera les réponses à l'officiant. La musique d'église des Grecs orthodoxes est toujours l'ancien plein chant avec ses 8 tons. C'est celui que les missionnaires byzantins ont introduit dans les pays slaves, mais il a été modifié au cours des siècles et les églises slaves et autres ont développé leur propre tradition de musique ecclésiale. Le chant dans l'église orthodoxe était autrefois réservé au chœur, mais dans un grand nombre de paroisses, les fidèles ont tendance à se joindre au chœur, au moins à certains moments de l'office. Les chants, comme dans l'église primitive, ne sont accompagnés d'aucun instrument. Au temps apostolique, les 8 tons étaient utilisés par tous les musiciens du Moyen-Orient. Ces modes étaient issus de la musique pythagoricienne. Chaque ton est une formule mélodique stable qui sert de matrice à une série de chants liturgiques dans les différents offices des calendriers fixes et mobiles. Le symbolisme du 8 est évident, donc le 8e jour de la résurrection. Les pères ont insisté sur l'importance de la purification intérieure, sur la lutte contre les passions et les émotions lors du chant. La sobriété est nécessaire. Pas de pathos, pas d'expression de sentiments ne doivent se glisser dans le chant. Le chantre et le lecteur aussi, pour les lectures c'est pareil, doivent s'effacer et devenir un véritable instrument de la parole de Dieu. Ceux qui ne chantent pas participent aussi à l'office en écoutant les paroles et en priant. Dans la structure de la semaine liturgique, le dimanche, premier jour de la semaine, qui commence le samedi soir par les vêpres et qui finit par nonne le dimanche soir, est consacré à la résurrection du Christ. Le lundi est consacré aux puissances célestes, aux anges, le mardi au précurseur Jean-Baptiste, le mercredi et le vendredi à la Mère de Dieu, la Vierge Marie, devant la croix, le jeudi aux apôtres et à Saint-Nicolas, il y a vraiment une grande vénération pour Saint-Nicolas, et finalement le samedi à tous les saints et à la mémoire des défunts. Il existe 8 tons en français, selon la tradition slave, et donc je voudrais vous faire écouter quelques exemples donc de chants d'une chorale francophone pour vous montrer un peu la manière de chanter et en même temps la distinction entre les tons. Donc tout d'abord, nous avons un exemple que je peux vous donner d'un chant du Lucernaire, donc c'est la deuxième partie de l'office de Vêpres. Vêpres des dimanches, normalement c'est bon, parce que je me suis connecté sur le mien.
Donc, très bien.
Comme ça ne va pas être très long, oui, c'est bon. Je suis, voilà. Donc voilà. Ça, c'est le ton 1. Hein. Yeah. Voilà. Là, vous avez entendu un exemple de chant du ton 1. Je passe au ton 2. Et donc là, on peut sélectionner un verset. Fais sortir de prison mon âme.
Fais sortir de prison mon âme. Pour que je confesse ton nom. Je m'aimer, adore le Verbe de Dieu, engendré par le Père avant tous les siècles, qui s'est incarné.
Donc vous voyez que le contenu est très dogmatique. Il y a toute une confession dans un simple chant. Du ton 2, je vais vous donner un autre exemple du ton 3. C'est ce qu'on appelle un théotokion, donc qui est dédié à la théotokos, c'est-à-dire à la mère de Dieu. Qui est très vénéré dans l'Église orthodoxe. Donc une autre formule mélodique. Voilà, donc là, je vous ai donné un troisième exemple. J'arrête là. Ce qu'il faut souligner, c'est que le culte orthodoxe est tout à fait communautaire, c'est-à-dire que les gens sont habitués à ces chants, qu'ils connaissent en particulier tous les offices de la Semaine Sainte, qu'ils retrouvent chaque année de manière identique. Par contre, ils ne connaissent pas évidemment les paroles des offices des saints du jour, parce que là, c'est très riche et il y a un très grand nombre d'hymnes différentes. Et évidemment, d'une fois sur l'autre, c'est différent. Il faut souligner aussi que dans chaque office orthodoxe, une qualité particulière de lenteur qui est dû en partie aux répétitions des litanies, litanies dites par le diacre ou par le prêtre, lorsqu'il n'y a pas de diacre, et qui reviennent à plusieurs reprises, et qui appellent l'assemblée à prier pour les besoins de l'Église, pour ceux du monde, et à chaque pétition, le cœur ou la communauté répond « Seigneur, aie pitié ». Kyrie eleison en grec, Gospodi pomiloui en russe. Une autre réponse usuelle aux prières de demande est « Accorde-le Seigneur ». Et donc l'Assemblée, en s'inclinant et en se signant, s'associe aux différentes intercessions. Le signe de croix est employé très fréquemment par les fidèles et de manière spontanée. C'est un geste d'auto-bénédiction actualisé, je dirais. Les sacrements occupent une place centrale dans le culte chrétien. Les orthodoxes les appellent « mystères ». Dans ces actions, il y a simultanément un signe visible et une grâce invisible. Donc Mysterion suggère évidemment le mystère du salut, le plan de Dieu pour sauver le monde que j'ai évoquée il y a un instant. Pour la plupart des sacrements, l'Église orthodoxe utilise des éléments matériels, eau, pain, vin, huile, et elle en fait, par la grâce de Dieu, des véhicules de l'Esprit-Saint. Et en ce sens, ils font référence à l'incarnation, lorsque le Christ a pris un corps rempli de l'Esprit-Saint. Donc, l'orthodoxie s'efforce de maintenir la matérialité des sacrements. La personne humaine doit être considérée comme un tout, comme unité intégrale de l'âme et du corps, et donc le culte sacramentel auquel participent les fidèles englobe pleinement le corps aussi bien que l'âme. Et l'Église orthodoxe donc parle couramment de 7 sacrements principaux, même si ce nombre a varié dans l'histoire. Ce sont fondamentalement les 7 mêmes que dans la pratique catholique romaine. Et j'en viens à ma troisième partie, le modèle de la prière monastique. Nous savons que le monachisme, à l'origine, trouve ses racines dans le maximalisme spirituel des 3e, 4e siècles, comme une réaction presque instinctive au moment où l'Église courait avec la christianisation des masses, une fois que le christianisme est devenu une religion autorisée, que petit à petit il a été officialisé avec la conversion de Constantin et après les édits de Théodose à la fin du 4e siècle. Donc le risque de se séculariser, de se dissoudre dans une sorte d'ordre naturel. Et c'est pourquoi le monachisme a incarné, dès le départ, dès la fin du 3e, début 4e siècle, l'exigence la plus haute de vivre l'Évangile par son caractère essentiellement eschatologique, tourné vers la fin des temps, vers l'accomplissement des temps. Attention, ne confondons pas eschatologie et apocalyptique. Ce n'est pas la fin du monde, entre guillemets. Mais c'est le début d'une ère nouvelle qui a commencé avec la Pentecôte, lorsque Saint-Pierre, dans son deuxième discours à la Pentecôte, souligne que les temps de la prophétie de Joël sont arrivés, que nous sommes maintenant dans une ère nouvelle. C'est l'ère de la descente de l'Esprit sur tous les hommes et femmes de bonne volonté qui veulent le recevoir. Et donc c'est ça l'eschaton. L'eschaton, nous y touchons déjà, c'est-à-dire que nous pouvons parler d'une eschatologie non pas réalisée complètement, parce que le Christ n'est pas encore revenu, mais il revient, comme dit l'Apocalypse. Il est celui qui vient maintenant. Et donc, et nous le confessons dans le credo. Et donc, c'est extrêmement important parce que le monachisme vit cela de manière intense. Il prend cette révélation au sérieux. Et donc c'est un mouvement au départ spontané, une sorte de sortie du monde, un éloignement, en grec littéralement anachorès, hors des environs de la communauté ecclésiale, qui ne se voulait pas plus qu'une distanciation, c'est-à-dire il ne s'agissait pas de se couper, ni de juger le reste des communautés ecclésiales, mais simplement de se retirer pour mieux recevoir la plénitude de la révélation et le don de l'Esprit. Un texte édité sous le nom du moine copte Chenouda résume cette vision initiale du monachisme. Je cite « Si tu parcours toute l'Écriture, frère bien-aimé, tu trouveras que la plupart des saints et des prophètes ont vu Dieu à cause de la violence de leur mot intraduisible, xénithéia. Xénithéia. Et c'est quoi cette histoire? Ben, xénophobe, vous voyez ce que ça veut dire. C'est le rejet de l'étranger. Donc xénos, c'est l'étranger. Xénithéia, c'est la condition d'étranger. La violence de la xénithéia, ça veut dire qu'en tant que chrétien, je suis étranger, non pas au monde, à ce monde dont parle saint Jean, ce monde qui rejette Dieu, qui rejette la révélation, qui rejette le Christ. Et donc, être chrétien authentique, c'est quelque part se sentir étranger à ce monde. Et si on dit qu'on se sent très bien dans le monde, que tout va bien, là je crois qu'il faut se poser des questions. Je crois que, et là je ne dis pas en tant qu'orthodoxe, je crois que c'est quelque chose de général. Que si tout va bien, que si on est admiré de tous en tant que chrétien, il y a un problème. C'est pas possible. Parce que le monde reste le monde, il n'y a rien à faire. Dieu a tant aimé le monde, mais en même temps, le monde refuse la révélation. Parce qu'il est monde, justement. Donc la xénithéia, c'est se rendre étranger au monde. La vie terrestre de tout chrétien, pas seulement celle des moines, mais de tout chrétien, est donc vue comme un exil loin du Seigneur, comme dit saint Paul dans la deuxième aux Corinthiens. Et l'épître à Diognète, une épître très importante du deuxième siècle, qu'on a retrouvée assez récemment, reprenait ce thème avec vigueur. Les chrétiens, dit cette épître, résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers. Toute terre étrangère est leur patrie, et toute patrie est pour eux une terre étrangère. C'est un texte très important qui avait été ressorti à l'époque d'un nationalisme terrible, à l'époque de la guerre d'Algérie, et il y avait quelques intellectuels chrétiens à la Sorbonne, comme un certain Henri-Irénée Marou, qui enseignait l'augustinisme, qui avait ressorti ce texte, d'ailleurs c'est lui qui l'a édité aux sources chrétiennes, en disant « c'est bien beau le nationalisme, mais attention, il y a quand même des limites qu'il ne faut pas dépasser. Quand on se met à torturer les gens à la Gégène pour la patrie, ça ne va pas. Ça ne va pas si on a vraiment un respect de la dignité humaine. Et nous, en tant que chrétiens, il y avait lui, il y avait le général de la Bollardière, etc., un certain nombre de personnalités qui ont dit « en tant que chrétiens, voilà les textes fondateurs, et notamment l'épître à Diognète. D'accord, nous avons une patrie, nous avons des devoirs, une légitime défense, etc. Mais attention à ne pas dépasser les bornes, et donc à avoir une anthropologie qui est conforme à la révélation chrétienne. Donc, cette spiritualité du caractère étranger par rapport au monde, elle a toujours été maintenue dans l'Orient chrétien. Le moine marche sur les traces des patriarches de l'Ancien Testament, mais aussi sur les traces du Christ lui-même, qui, je vous le rappelle, est venu comme un étranger, n'ayant rien où reposer la tête. Matthieu 8, 20. Donc cette spiritualité de l'errance a marqué tout l'Orient syriaque durant des siècles, et elle explique en particulier les grandes missions lancées jusqu'en Chine, et elle s'est maintenue dans l'orthodoxie jusqu'aujourd'hui, spécialement en Russie, à travers le type du vagabond mystique, le stranik. Et on connaît bien en Occident les récits d'un pèlerin russe, hein, paru en 1881, et qui ont connu plusieurs rééditions. Le héros, c'est un jeune, enfin, qui a 30 ans, qui a perdu sa famille, sa maison et son emploi, et qui entre un jour, un dimanche, à l'église, et qui entend cette parole de saint Paul qui lui va droit au cœur et qui dit « Priez sans cesse ». Et à ce moment-là, il se pose la question « Comment est-il possible de prier sans cesse ?» Et il cherche quelqu'un capable de lui expliquer le sens de cette parole. Et cette errance est pour lui l'occasion de rendre gloire à Dieu pour la beauté de la nature. Alors, même si le monachisme oriental s'est stabilisé dans des monastères très tôt, en suivant l'exemple égyptien et palestinien, eh bien, je dirais qu'il a toujours intériorisé cette xénithéia. Et rapidement se sont développés deux types de monachisme, érémitique et cénobitique, avec une complémentarité entre les deux. Et ici, il est vraiment fondamental de souligner deux choses. Dans l'Orient chrétien, le moine est un exemple à suivre pour tous les fidèles. Et d'autre part, les monastères sont des lieux de ressourcement pour tous les laïcs qui y sont accueillis pour des retraites ou des offices et qui y trouvent souvent une sorte de suivi spirituel ou même carrément une paternité, c'est-à-dire un lien spirituel très fort avec une personne. Il est temps maintenant d'évoquer la voie de cette vie monastique que l'on appelle l'hésychasme. Alors, hésychasme avec un H et ensuite un Y, hésychasme, vient du grec hésychia, qui signifie la paix, la paix intérieure, le retrait, je dirais la douceur de, qui vient de la rencontre de Dieu. Donc cet hésychasme désigne le cœur même de la spiritualité du christianisme oriental et déborde d'ailleurs le monachisme, puisqu'en fait il concerne virtuellement tous les baptisés. Le terme hésychaste a un double sens dans le monde byzantin. Il est soit synonyme d'ermite, soit il désigne plus généralement celui qui mène une prière intérieure continuelle, qui l'amène à un état de paix où il ressent la présence du Christ en lui. Et donc ce peut être même un laïc. Cette voie hésychaste, elle repose sur un double fondement, la doctrine de la déification de l'homme dans le Christ, que j'ai évoqué tout à l'heure, et l'enseignement pratique des pères du désert sur ce qu'on appelle la garde du cœur et la prière continuelle. Je vais y revenir. Pour atteindre l'hésychia, il faut mener un combat intérieur qu'on appelle une ascèse, askésis, l'exercice. Non seulement du comportement, en cultivant un certain retrait hors du monde, mais aussi, évidemment, du comportement avec les autres, en étant soucieux de respecter les appels de l'Évangile, de l'amour du prochain, mais aussi de l'intériorité, cette garde de l'intériorité, en travaillant ses pensées, le problème des pensées vaines. C'est extrêmement important. Les vains raisonnements ou suggestions que la tradition des pères grecs appelle les logismoi, vous voyez, ça vient de logos, la parole, les logismoi sont des suggestions, des pensées qui, au moment où on essaye de se détendre et de se concentrer dans la prière, vous appellent à faire autre chose. Vous appelle à penser à quelque chose, quelque chose, il faut absolument que je le fasse, et vous détourne de la prière. Ou alors, ça peut être plutôt un sentiment. Je me souviens, m'a dit quelque chose, là, c'est mon ennemi, etc. Bon, vous voyez, quelque chose qui est soit de l'ordre de l'émotif, soit de l'ordre de la distraction, et qui détourne de Dieu. Et donc, qui peut être, je dirais, un trouble pour l'âme et qui empêche le ressourcement au fond de soi. D'abord, acquérir ce calme, ce vide, cette intériorité qui doit être paisible le plus possible pour se consacrer à la prière. Et donc, il y a ce combat, cette ascèse qui est à mener contre ses pensées pour essayer d'acquérir un minimum de paix pour pouvoir prier. Et selon saint Jean Climac, un très grand, un éminent père du désert du Sinaï au 7e siècle, je cite, « L'ami de l'hésychia est celui dont la pensée, toujours en éveil, se tient avec courage et intransigeance à la porte du cœur pour détruire ou repousser les pensées qui surviennent. » C'est à l'intérieur d'un traité qui s'appelle le traité de l'échelle, où il y a des degrés pour monter de plus en plus, donc en montant vers la contemplation de Dieu. Et ça, c'est au degré 27. Il y a cette petite remarque. L'échelle en compte 80. Il y a différentes échelles d'ailleurs, hein, ça dépend, c'est pas systématique. L'élément fondamental de la méthode hésychaste, c'est la répétition d'une prière monologique, c'est-à-dire une prière qui est synthétique sur quelques mots et dont la formule la plus développée est la suivante: Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Donc une formule qui n'était sans doute pas encore constituée dans son intégralité au 6e siècle, et qui peut être abrégé selon les conditions, se réduisant parfois au simple nom de Jésus. Répétez simplement le nom de Jésus en se concentrant sur ce nom qui sauve, qui est le nom d'une personne. Mais les conditions sont aussi un retrait dans le silence et la pratique d'une posture corporelle déterminée et d'un certain contrôle de la respiration. Ça, c'est la dimension corporelle, puisque comme je l'ai souligné, il est très important de faire participer son corps à la prière. Le corps n'est pas quelque chose de méprisable comme dans la spiritualité platonicienne et surtout néo-platonicienne, et dont il faut absolument se purifier pour atteindre des sommets de la vie spirituelle. Ce n'est absolument pas la vision chrétienne. Donc c'est l'être humain tout entier, corps et âme, qui doit recevoir le salut. Le but de la prière dont il est question et qu'on appelle la prière de Jésus, celle qui invoque le nom du Sauveur, c'est, je cite, « la descente de l'intelligence dans le cœur ». Qu'est-ce que ça veut dire? L'intelligence désigne ici non pas l'intellect au sens étroit et rationnel du terme, mais l'ensemble des facultés cognitives et contemplatives, la lumière de la raison et de la conscience qui fait de l'homme un être libre. Bref, c'est la conscience personnelle. Quant au cœur, le cœur, c'est la source obscure et profonde. Jésus parle du cœur à plusieurs reprises dans l'Évangile. Donc c'est cette source d'où jaillit toute la vie psychique et spirituelle, qui peut être positive, mais qui peut être aussi négative. Et donc par laquelle l'homme communique avec la source même de la vie. Selon un grand saint russe du XIXe siècle, saint Ignace Brianchaninov, la nature spirituelle de l'homme est double. Ces deux pôles sont d'une part le cœur, source des sentiments, des intuitions par lesquelles l'homme peut connaître Dieu directement sans la participation de la raison, et d'autre part la tête, le siège de la pensée claire de l'intelligence. Voilà, ça c'est la citation de saint Ignace. L'intégrité de la personne humaine, c'est le rapport harmonieux entre ces deux puissances. Sans la participation de l'intelligence, les intuitions du cœur restent des impulsions obscures. Et de même, sans le cœur qui est le centre des activités et la racine profonde de la vie humaine, l'esprit intelligence est impuissant. Parce que c'est dans le cœur qu'il y a une intégration de toutes les puissances qui peut se faire progressivement. Et donc la descente de l'intelligence dans le cœur signifie que ce qu'on saisit avec son intelligence, on est appelé à le recevoir avec tout son être, avec son cœur, c'est-à-dire dans les profondeurs mystérieuses de la personne, dont le cœur physique, donc ce cœur, le cœur physique, en est le symbole. Les spirituels d'aujourd'hui, je crois qu'il y avait un certain spirituel roumain qui était, pour situer le cœur spirituel, légèrement plus haut et plus au centre que le cœur physiologique. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière est appelée à devenir véritablement prière du cœur. Autrement dit, il y a une unification de la personne qui peut se faire par la grâce et dans une rencontre personnelle avec le Dieu trinitaire. Cette prière demande une ascèse, je l'ai dit, et en particulier une véritable vigilance et une sobriété de l'esprit, deux qualités indispensables qui sont exprimées par le même mot grec qui a ses deux sens et qui est le mot « nepsis ». « Nepsis » en grec signifie à la fois la vigilance et en même temps la sobriété. Donc vous voyez, on est dans une tradition qui essaye de faire tabula rasa, mais pas pour remplacer par du nihil, c'est pas du nihilisme, c'est pour accueillir royalement le don de l'esprit. Et donc on n'est pas du tout dans une tradition qui va utiliser l'imaginaire. par exemple, comme dans certaines traditions occidentales, tradition ignatienne par exemple. C'est complètement différent de ce point de vue. On refusera vraiment complètement toutes les représentations, toutes les imaginations. C'est totalement proscrit parce que cela peut être source d'erreurs. Cela peut être source d'illusions. Et il n'y a rien de pire que l'illusion spirituelle. C'est extrêmement dangereux pour un spirituel. Je parle de ceux qui vivent dans cette prière au quotidien et qui peuvent se tromper complètement s'ils n'ont pas donc cette vigilance et d'autre part surtout un guide pour les suivre en qui ils se remettent complètement et à qui ils se confient complètement. Donc ça c'est ce lien dont je parlais de la paternité spirituelle qui est vécue comme un véritable sacrement. Et ce sacrement est d'autant plus authentique que le Père spirituel fera tout pour que le fils ou la fille spirituelle s'affranchisse progressivement de lui. C'est le contraire du phénomène du gourou. On pourra y revenir. Donc cet hésychasme s'est particulièrement épanoui à la fin du XIIIe siècle. Je regarde le temps, hein, parce que je vois que le temps a passé, donc il est 50 et il faut que j'arrive à ma conclusion. Il a eu une période donc particulièrement d'épanouissement au XIVe siècle, à l'époque de Grégoire Palamas et de Nicolas Cabasilas, qui étaient des hésychastes. L'un était moine Palamas et l'autre Cabasilas était un laïc extraordinaire qui a écrit un livre magnifique en 5 parties qui s'appelle « La vie en Christ » dont je vous recommande la lecture et qui est publié en français aux sources chrétiennes par Marie-Hélène Combourdeau. Et donc il y a eu un renouveau à nouveau de cet hésychasme à partir du XVIIIe siècle lorsque deux moines illustres, notamment Nicodème l'Agiorite et Macaire de Corinthe, ont publié un recueil de textes spirituels qu'on appelle la Philokalie. Philokalie veut dire amour de la beauté de Dieu. Ces textes étaient une anthologie, une immense anthologie de textes allant du 4e au 15e siècle sur 1500 pages. Cette Philokalie des pères neptiques, c'est-à-dire des pères vigilants, a été traduite en français, et donc vous pouvez la trouver en français. Elle commence par un texte de saint Antoine le Grand et elle se termine par un texte de la vie de saint Grégoire Palamas qui souligne que la prière continuelle est inhérente à l'identité chrétienne, pas simplement aux moines, et qu'elle concerne tous les chrétiens, quelle que soit leur place dans l'Église. Dans la préface, Nicodème souligne que l'ouvrage est destiné à tout le monde, tous étant appelés à s'unifier intérieurement, s'unissant à Dieu, et par là, en Christ, à tous les hommes. Donc cette diffusion de textes spirituels, qui a eu lieu à la fin du XVIIIe siècle, était une sorte de réponse orientale à l'idéal des Lumières de l'Occident. Voilà. À l'Encyclopédie française des Lumières, que l'on sortait ici, répondait une encyclopédie de la lumière divine incréée. Ça me fait plaisir de penser qu'il y avait cette espèce de contrepoint à l'humanisme clos du déisme. L'Orient répondait par un théo-humanisme, plaçant le Christ non seulement comme modèle, mais comme chemin, comme lieu d'accomplissement de l'homme dans la grâce de l'Esprit. Alors, cette Philokalie, elle a été très rapidement diffusée à travers le nord des Balkans, par l'Ukraine, en Roumanie, traduite en roumain et très rapidement en slavon et ensuite en russe. Et c'est elle qui est à l'origine de tout un renouveau spirituel en Russie au XIXe siècle, un renouveau de la lecture des pères, si bien qu'on avait à la fin du XIXe siècle en Russie toute une collection de tous les pères de l'Église, latin, grec, syriaque, qui étaient traduits en russe et qui étaient accessibles à tous et qui expliquent le renouveau chrétien en Russie à peu près à la moitié du XIXe siècle, avec des auteurs comme Dostoïevski, qui a entrevu la modernité et l'athéisme moderne. Je crois que Dostoïevski a été profondément influencé par les grands spirituels de plusieurs monastères, dont le monastère d'Optino. Ça apparaît dans les frères Karamazov, la figure du starets. Bon, je suppose que plusieurs d'entre vous, vous avez lu ces textes extraordinaires. Et tout ça, c'est dû indirectement à cette philokalie. Voilà, je m'arrêterai là pour, avant peut-être dire un dernier mot d'un très grand saint qui est dans cette lignée-là et qui s'appelle le starets Silouane. On en a parlé pendant le dîner. Le starets Silouane, c'était un homme très simple d'un village de Russie, né en 1866, et qui est parti au Mont Athos suite à un appel. Mont Athos, république monastique fondée en tant que espace avec de multiples monastères, aujourd'hui 20 grands monastères et des centaines de petites maisons monastiques où il y a 3-4 moines, aujourd'hui plus de 2000 moines. Et donc à l'époque, dans les années 1892, oui, il arrive en 1892 à l'âge de 26 ans, il va directement au monastère russe parce que c'est un lieu international orthodoxe, interorthodoxe. Et donc à l'époque, il y avait un très grand monastère dans lequel, un très grand monastère russe dédié à Saint Pantéléimon et qui était servi par un navire tous les jours qui arrivait de la Crimée avec des provisions. Parce que rien que dans ce monastère russe, il y avait 2000 moines. Vous imaginez? Donc c'était vraiment une usine spirituelle, entre guillemets. Et bon, aujourd'hui, ils sont beaucoup moins. Parce que les moines grecs seraient inquiets qu'il y ait trop de moines russes. Et donc ils sont limités, je pense, à une soixantaine, tout au plus. Donc il arrive là-bas et très vite donc il obtient des grâces dans la prière. Il obtient la grâce de cette prière du cœur qui devient incessante en lui. Et elle se met à jaillir dans son cœur de manière spontanée. Et quelques temps plus tard, il est touché par des pensées d'autosatisfaction. Mal lui en a pris parce qu'après il perd cette prière. Et là, c'est la catastrophe intérieure. Il s'effondre. Il est en pleine détresse. Il se sent complètement abandonné de Dieu. Et 6 mois après, donc, il reçoit au cours d'une prière devant l'icône du Christ. Non, c'est pas encore là. C'est pas encore là. Il reçoit l'illumination du Christ. Le Christ qui est sur son icône lui apparaît en pleine lumière, en pleine grâce. Et donc, il est complètement ébloui par la présence du Christ. Donc, il est ressuscité totalement. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va être une lamentation intérieure pendant des années parce qu'il ne peut plus retrouver cette présence du Christ qu'il a eue lors de cette illumination. Et donc, les années passent. Une dizaine d'années. Et finalement, il est désespéré. Il sait qu'au départ, il a fait ce péché d'orgueil en croyant qu'il était un grand spirituel, etc. Mais qu'après, le Christ lui a donné cette lumière de sa présence, donc lumière de l'Esprit Saint. Mais la perte de cette lumière le met dans une espèce de désespoir. Et donc, on sait que vers 1906, au cœur d'une nuit terrible, de lutte intérieure, il demande au Christ, « Seigneur, apprends-moi ce que je dois faire pour que mon âme devienne vraiment humble. » Et il entend cette prière, cette réponse du Christ en lui, « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. » Voilà cette parole extrêmement forte qui est l'expression synthétique de son enseignement, d'une véritable voie vers le salut. C'est-à-dire que nous pouvons être dans des situations infernales. Ça peut être les situations de la vie, mais ça peut être aussi des situations intérieures. Mais malgré tout, il ne faut pas désespérer parce que le Christ est à nos côtés. Et que, bon, il y a des moments... Cette phrase est un véritable feu et Je pense qu'elle a beaucoup aidé, elle a aidé des milliers de personnes, et pas seulement orthodoxes. Elle a pu être adaptée à chacun, donc selon son état et ses forces. Et donc, elle exprime cette voie du repentir. Donc, l'enfer, c'est cet état de l'âme qui est coupé de Dieu, de manière globale à cause de notre péché, et plus fondamentalement à cause du péché du monde. Et donc, on accède à la résurrection que par la mort. On accède à la vraie lumière qu'en passant par l'abandon des fausses lumières. On accède à la joie que par la souffrance. C'est cette loi spirituelle, finalement, qui est rappelée à travers ce message de Silouane. Et l'autre message de Silouane, qui est très fort, et pour lequel il a souffert dans son monastère, parce qu'il était mal vu parfois par certains de ses frères, c'est que, pour lui, le signe de l'authenticité de la vie spirituelle et de l'amour de Dieu, c'est l'amour des frères, et tout particulièrement, dit-il, l'amour des ennemis. Tant qu'on n'arrive pas à aimer ses ennemis, ceux qui vous haïssent, c'est qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Parce que c'est ça le signe véritable de l'amour de Dieu. Et il prie sans cesse pour le monde entier et pour tous les hommes. Donc là, on est vraiment, je dirais, dans le paradoxe de la vie monastique, mais qui est en même temps le modèle pour tous les chrétiens, pour la prière des laïcs. C'est qu'il y a un certain retrait vis-à-vis du monde, et en même temps, en se retirant, plus la prière devient authentique et forte, et plus elle porte le monde entier, et plus elle peut aider à la résolution des conflits et à instaurer la paix du Christ sur terre. Voilà.
Merci beaucoup.
Donc on peut avoir un temps d'échange, même si j'ai débordé malheureusement.
Y a-t-il une question? C'est tout un univers, c'est très beau, je suis très loin.
Bonjour monsieur, merci pour votre magnifique conférence. Quelle forme va prendre dans la spiritualité orthodoxe cette prière continuelle, notamment dans les activités qui prennent l'attention, qui empêche donc de ne serait-ce que repenser à une prière en permanence pendant qu'on travaille, pendant qu'on joue la musique, etc. Quelle forme, dans ce cas, va prendre la prière continuelle dans cette musique-là ?
Aucune. Parce que ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas acquis encore cet état de prière continuelle. Il m'est arrivé, grâce à Dieu, d'avoir cette expérience de voir la prière du cœur dans manifestement la vie personnelle de plusieurs personnes, et j'ai constaté que ces personnes priaient en permanence, en faisant autre chose, en parlant. Je voyais que les lèvres disaient la prière du cœur de manière automatique, quasiment automatique. Et donc ces personnes-là sont arrivées à ce stade de la prière du cœur. C'est-à-dire que la prière est tellement intériorisée qu'elle est un fond permanent de la personne, vous voyez. Mais dans un premier temps, il n'est pas question d'atteindre ce niveau-là.
Je crois que presque qu'on pourrait prendre le problème à l'envers, en fait, c'est que l'esprit nous est donné. C'est l'esprit qui veut prier. Mais nous, en fait, on n'arrête pas d'encombrer les choses, on rebouche le puits, en fait. Et par la liturgie, par aussi la répétition consciente et de moins en moins consciente ensuite de certaines formules, comme notamment ce que vous dites tout à l'heure, on débouche le puits. Et à un moment donné, c'est un autre niveau en fait que le niveau habituel de l'existence, qui fait que quand le puits est débouché, l'esprit prie en nous quand même, on est en train de faire du pain ou planter un... Ce qui est le plus difficile, à mon avis, de maintenir la prière du cœur, c'est quand on a l'activité intellectuelle. Ça, c'est plus difficile. Même comme ça, je pense qu'on peut le faire. Mais il y a des paliers aussi, il y a toute une pédagogie. C'est pas, on s'habitue petit à petit, et puis quand
On a des exemples dans l'histoire byzantine, par exemple, des membres du conseil de l'empereur qui pratiquaient la prière du cœur en même temps qu'ils participaient au conseil, aux réunions du conseil. Donc c'est clair que on peut l'atteindre, évidemment, au terme d'une longue pratique.
Mais le but n'est pas d'aboutir à une prestation, c'est de désencombrer le cœur. C'est vraiment ça que...
Alors j'aime beaucoup votre image originienne des puits à déboucher. Ça, c'est très important, oui, effectivement. Parce que c'est vrai que le cœur, c'est comme un puits qui a été ensablé par des passions. Et aussi des choses dures. Il y a des corps, hein, c'est un peu comme les corps aux pieds, quoi. Et il faut curer tout ça. Oui. Mais c'est le Saint-Esprit qui cure. Mais il faut aussi un peu l'aider, parce qu'effectivement, si on ne fait rien, si on est dans une espèce de paresse et rien n'avance.
Il y a nos faiblesses, nos péchés et nos blessures qui en comptent tout ça. Ce qui explique que guérir tout ça, c'est vraiment que le Christ qui.
Tout à fait. Il y a le Christ et puis il y a l'Esprit Saint. C'est extrêmement important aussi de se rappeler que l'Esprit nous pousse, nous provoque, entre guillemets, gentiment. Mais évidemment, il faut être un petit peu attentif. D'autres questions ou remarques? Oui, vous en prie.
Vous êtes parti de la diversité des églises orthodoxes.
Oui.
Est-ce que cette diversité a des conséquences liturgiques sur le rite, le calendrier, etc. Ou est-ce que tout le monde, comme vous avez dit la liturgie Saint-Chrysostome et puis les autres selon la période de l'année? Ou est-ce que selon les patriarcats ça...
Alors, selon les églises autocéphales, puisque l'église orthodoxe est une communion d'églises autocéphales, il y en a 14 actuellement, il y en aura bientôt une 15e, l'église d'Ukraine, qui est en cours de reconnaissance. Et donc, pour répondre à votre question, c'est une question compliquée puisque vous posez la question du calendrier. Il y a eu une réforme du calendrier fixe. Alors d'abord, vous savez que dans l'histoire de l'Église occidentale, il y a eu une réforme importante au XVIe siècle qu'on a adoptée donc à l'époque du pape Grégoire, je ne me souviens plus lequel. Il y a eu une réforme du calendrier pour corriger une erreur du calendrier de Jules César. Mais comme on n'était pas en communion, malheureusement, la réforme de calendrier qui était prévue à l'époque byzantine n'a finalement pas eu lieu avant 1925. Et 1925, ça ne vous échappera pas qu'à cette époque, malheureusement, l'Église russe est complètement enfermée dans le monde soviétique. Donc, il y a eu cette réforme de calendrier de la part du patriarcat de Constantinople, donc qui est la première église dans l'ordre d'honneur, entre guillemets, l'église de Grèce, etc., un grand nombre, mais pas dans toutes, et notamment dans l'église de Russie, qui n'a pas fait sa réforme du calendrier fixe. Et voilà le problème. C'est qu'aujourd'hui, le calendrier ancien, le calendrier de Jules César, est devenu un espèce de calendrier sacré de l'orthodoxie. Et que le fait de passer au nouveau calendrier serait, pour certains, pour des masses un peu inéduquées, une atteinte à la tradition sacrée de l'orthodoxie russe. Ce qui est très malheureux, parce qu'on avait fait, si vous voulez, un colloque là-dessus à l'Institut Saint-Serge. On avait fait venir un directeur d'un séminaire de Saint-Pétersbourg. Il disait, il n'y a aucun problème, moi je sais parfaitement qu'il faudrait changer de calendrier et venir au nouveau calendrier, donc qui correspond en gros au calendrier grégorien. Mais le problème, c'est que les masses sont inéduquées. Donc si on fait ça, et oui, je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité, si on fait ça, on aura un schisme immédiatement. Tout le monde en est convaincu que la réforme est, enfin pas tout le monde, mais je veux dire dans les élites.
C'est une question d'inéducation, mais il y a aussi le fait qu'il y ait... Dans l'Antiquité, les questions de calendrier, il y avait aussi une incidence cosmique. Alors pour moi, on peut aussi se nourrir avec la date de la Pâque. Je veux dire, ce n'est pas un truc arbitraire.
Mais ce n'est pas du tout arbitraire.
Je crois que la défense des masses inéduquées.
Mais pas du tout. Pas du tout, c'est au nom du fait que ce n'est pas arbitraire.
Donc c'est
qu'il faut le réformer. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va fêter Pâques de manière complètement décalée.
Des selon les églises. Mais ce que c'est, voilà. C'est pas un médiocre débat. Il ne suffit pas de dire allez.
Non, non, bien entendu.
Le débat n'est pas médiocre parce qu'il y a beaucoup d'instances. Nous, on a un peu perdu parce que nous, en Occident, on a perdu tout ça. Mais des grandes querelles d'Antiquité.
Oui, mais là
c'est. Vrai, porto décimale, ça a été très
ah oui, non, mais ça c'était autre chose. Et savoir quand est-ce qu'on fête la date de Pâques.
La date de Pâques, est-ce que c'est
tout à fait. Oui, ça c'était autre chose. Mais là, c'est vraiment le décalage du calendrier de Jules César, qui est un calendrier simpliste.
Oui, ça,
et qui, avec les siècles, est complètement, est complètement faux, quoi.
Vous voyez.
Voilà. C'est pour répondre à votre question. Ça veut dire qu'on ne fête pas Noël ensemble entre les différentes églises orthodoxes. Mais par contre, comme il y avait eu un problème sur le calendrier fixe, qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord complètement, eh bien on a décidé de ne pas aller plus loin, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait la réforme du calendrier mobile, autrement dit de la date de Pâques. Et c'est pour ça qu'il y a un problème et que malheureusement, on ne fête pas Pâques en même temps que les frères occidentaux, parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout de la réforme, pour ne pas en rajouter. Voilà. Donc c'est vraiment dommage, mais c'est comme ça.
Et donc du coup, sur le rite, c'est-à-dire que la divine liturgie est dite de la même manière, vous avez réussi à garder l'unité entre Moscou, Constantinople, etc.
Ah oui, c'est exactement la même liturgie. Bon, alors il arrive qu'il y ait un tropaire, un chant de plus. Évidemment, il y a parfois des petites modifications, mais très très peu. Très très peu. Oui, allez-y.
Justement, à propos des liturgies, vous avez fait écouter des chants en français,
oui,
et harmoniser en système tonal, donc contemporain,
oui,
occidental. Est-ce qu'il y a quand même le système des 8 tons, c'est un système mélodique qui après est harmonisé en fonction de l'époque?
Alors en fait, il a été harmonisé dans la tradition russe à partir du XVIIe siècle, sous l'influence de maîtres italiens et allemands. Donc il s'est occidentalisé. C'est pour ça qu'il est très agréable à entendre pour des occidentaux. Mais par contre, si vous écoutez les mêmes tons, je dirais, du côté du mot Athos, bien vous aurez un sentiment. Alors, ça peut avoir deux effets complètement différents. Chez les uns, ça va être horrible. Chez les autres, une véritable fascination. Parce que justement, c'est quelque chose qui est... la seule chose à laquelle ça peut faire penser, c'est au chant grégorien. On peut dire. Chant grégorien et chant vieux romain, très proche. Voilà. Oui, certainement. Certainement, parce que le chant vieux romain était un chant grec avant la réforme du chant vieux romain. Donc il y a des études de musicologues qui sont très intéressantes. Marcel Pérez, par exemple, a fait des disques, je vous recommande, dans lesquels vous entendez à la fois du chant vieux romain et du chant byzantin.
Le modèle, c'est le truc auquel ça ressemble vraiment, c'est le chant corse.
Ah oui, non mais exactement, le chant franciscain corse,
ouais,
c'est extraordinaire.
C'est
alors là, écoutez, c'est très proche du chant byzantin. Voilà.
Il est malheureusement...
Je veux pas...
Est-ce que vous avez vu Lille, le film de Babel Longwy, vous avez vu ça, hein?
Lille, ah oui.
Pour moi, c'est le plus beau film, religieux, je ne sais pas comment l'appeler, qui a jamais été tourné. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre d'avoir... alors, je ne serais pas contre qu'on diffuse dans le cadre de l'aumônerie, mais alors, ça fait un jeudi spécial. La Bible, on fait ça justement quand il n'y a pas de messe là. Est-ce que ça peut être jeudi prochain? Personne n'est là jeudi prochain.
Si, il y a certaines
personnes. Moi, je suis là, je suis pas hostile à... En fait, on organise un truc ici, à Hume, si vous voulez. Pas à Hume, où est-ce qu'on est là? Saint-Germain-des-Prés. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez vu.
Moi, je l'ai vu, je le trouve extraordinaire. Mais il y en a un autre plus ancien qui s'appelle Andrei Rublev, qui est extraordinaire aussi.
J'ai préféré Lille.
Oui, c'est un peu différent. Quoi.
Tout un temps, je me dis que c'est pas possible, il y a un problème avec la bande son. C'est super bien. Donc, on va essayer jeudi prochain d'organiser ça pour les quelques personnes qui sont là. C'est pas les princes. Ils sont en vacances, donc je vais essayer d'organiser ça. Moi, je suis ici à Paris. Enfin, je suis ici à Saint-Germain, on va essayer de faire ça à Saint-Germain. Mille merci. Je sais pas si vous avez le temps de prier les conclus avec nous.
Bah, si, oui.
D'abord, on va prier les conclus. Merci beaucoup. C'était.
Avec plaisir.
Magnifique. Alors, comme les autres conférenciers, et je vais. Tout le monde le fait beaucoup plus que ce qu'on demande. C'est très bon signe, en fait.
Ah bon ?
Ça montre que la prière n'est pas une technique.
Bah non,
c'est le souffle vivant en nous, et donc on devrait parler plus.
Ah oui, forcément, forcément, mais parce que je ne voudrais surtout pas donner l'impression que c'est une technique et qu'on fait des prières
thérapeutiques. Moi je l'ai acheté la philocaline hypernectique, j'ai pas tout lu mais ça vaut vraiment.
Ah c'est énorme hein, mais.
J'ai pris les sons de la fontaine avec les parties.
Oui, tout à fait.
Et alors je crois qu'ils ont tout partout faire, il me semble.
Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est la même en fait, ça a été reprise en deux volumes. Tout à fait.
Alors on va dire les filles dans les films. Ceux qui vont partir, c'est sur la gauche. L'église ne veut pas sortir en partie des groupes, mais si vous voulez prendre des groupes,
thank you.
Thank you.
Thank you.